Les femmes sont confrontées à la nécessité, plus tôt et plus vite que les hommes. Et en particulier parce que l'horloge biologique des femmes n'est pas la même, qu'elle est marquée par des événements, ruptures qu'on ne peut pas ignorer. Et donc, contre cette nécessité, il me semble que la littérature féminine a développé deux ou trois choses assez particulières. D'abord l'ironie. L'ironie qui est une façon de prendre ses distances. Il y a une ironie de l'écriture féminine qui pourrait être un fil conducteur. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a un pragmatisme parce que l'attention aux objets quotidiens, à la prose de la vie, ça c'est quand même aussi un élément de l'écriture féminine. Et puis, pour ne pas les enfermer dans ce pragmatisme prosaïque du côté de la cuisine, des casseroles, etc., ce qu'il faut aussi voir dans la littérature féminine et qui est toujours très sensible, c'est que ce pragmatisme ne les éloigne pas d'une double vue. Constamment, il y a un va-et-vient entre le visible et l'invisible. Flannery O'Connor, elle a là-dessus une phrase magnifique, elle dit que, et c'est une phrase de femme, que la littérature nous apprend à déchiffrer ce qu'est le mystère au contact de la réalité et à déchiffrer la réalité au contact de ce qu'est le mystère.
L'humeur vagabonde sur France Inter.
Comme à son habitude, Mona Ozouf remet nos pendules à l'heure en évoquant avec subtilité cette littérature féminine que les critiques masculins peinent trop souvent à envisager. Un peu comme Vladimir Nabokov qui, invité un jour par une université américaine à donner une conférence sur Jane Austen, commença par refuser en expliquant qu'il préférait parler de Stevenson car, dit-il, j'ai des préjugés contre toutes les femmes écrivains, elles appartiennent à une autre catégorie. Imagine-t-on une écrivaine, allez, rêvons un peu, même aussi célèbre que l'auteur de Lolita, expliquait paisiblement qu'elle a des préjugés contre la littérature des hommes et que les histoires de chercheurs d'or et de capitaines de bateaux qui les font toujours vibrer, même adultes, l'ennuient, elle, profondément. Cette anecdote, pas vraiment à l'honneur de Nabokov, qui après l'avoir lu dut quand même reconnaître quelque chose de merveilleusement génial à Jane Austen, ouvrait en 2002 l'essai que Geneviève Brisac consacrait à une dizaine de femmes écrivains sous le titre « La marche du cavalier ». 17 années plus tard, elle a remis l'ouvrage sur le métier, l'a actualisé et l'a enrichi de belles pages sur d'autres écrivaines comme Alice Munro, nobelisée en 2013, Doris Lessing, nobelisée en 2007, Natalia Ginzburg et la magnifique Viviane Gornick, que l'on a découverte en France l'an dernier grâce à la traduction de ces deux livres aux éditions Rivage. Sisyphe est une femme est un essai essentiel publié aux éditions de l'Olivier qui donne une féroce envie de lire et de goûter aux mots des femmes pour dire l'essence et le mystère de nos vies. Bonsoir Geneviève Brisac.
Bonsoir Catherine Eva.
Donc Sisyphe, c'est vous en fait, oui. Parce que 17 ans après, nous revoilà.
Vous m'avez reconnu.
De part et d'autre du micro à parler de ces femmes qui écrivent et qui écrivent des choses qui manifestement dérangent parfois beaucoup les critiques masculins, les écrivains masculins. Et pourtant, voilà, vous êtes là, vous recommencez, vous avez changé de titre parce que du coup Sisyphe s'imposait.
Alors, c'est une source perpétuelle d'étonnement, c'est comme le rocher de Sisyphe, l'étonnement. On croit que les choses ont changé, on croit que les camarades écrivains, hommes, chercheurs d'or, etc., désormais, de même qu'ils vont chercher les enfants à la crèche, lisent les livres de leurs camarades, femmes ou filles. Et puis, on s'aperçoit, au hasard des rencontres, des salons du livre, etc., que, alors, pas du tout. Pas du tout, que les préjugés sont tout à fait constants. Et c'est ce qui m'a amené finalement, effectivement, par entêtement et aussi par goût de la provocation et aussi pour le plaisir d'en rire, de republier en ajoutant d'autres morceaux à cet édifice. Et peut-être que j'en ferai encore un autre plus tard avec encore d'autres portraits, d'autres rencontres, d'autres réflexions, parce que c'est d'abord un manifeste, ce livre, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est le bonheur, le plaisir de découvrir à travers les œuvres de ces femmes, de ces écrivaines. Qu'est-ce que c'est ce plaisir dont on se prive tant puisqu'elles sont presque toutes disqualifiées, délégitimées, souvent calomniées? Et c'est vraiment bien triste. Pendant des années, avec Agnès de Sarthe, nous nous sommes promenés sur les routes de France, enfin principalement de France d'ailleurs, pour parler de Virginia Woolf, convaincue que tout le monde allait être entraîné par notre livre, qui était un essai littéraire un peu du même tabac, du même genre. Et toujours, il y avait quelqu'un qui se levait dans la salle, un monsieur qui n'avait pas lu le livre, qui n'avait pas lu Virginia Woolf et qui n'avait pas l'intention de le faire et qui disait « Et pourquoi vous ne parlez pas de Joyce ?» Et c'est vrai que je pense toujours à ces scènes et il y a toujours quelqu'un qui se lève dans une salle pour dire « Pourquoi il n'y a pas d'homme dans votre livre ?»
Oui.
Et ça m'est encore arrivé il y a
deux
jours.
Bonne question.
Et pourquoi il y en aurait ? Et c'est agréable de faire une longue liste de femmes, d'écrivaines magnifiques. Il n'y a pas d'hommes, c'est pas grave. Il y a des tas d'endroits où il n'y a que des hommes. Et à peu près partout même. En particulier dans les dictionnaires, sur les plateaux de télévision et dans les listes, les fameuses listes.
Et pourtant, alors, depuis notre rencontre de 2002, Geneviève Brisac, quelque chose ont changé, quelque chose au pluriel ont changé. D'abord, le fait que vous, comme moi, on est arrivé à dire écrivaine. Oui. Ce qui, en 2002, était impossible. Écrivaine, c'était un peu absurde, mais on n'arrivait pas à prononcer parce qu'il y avait le mot veine dedans. On trouvait que le féminin n'était pas beau. Et puis finalement, maintenant, on dit écrivaine.
C'est vrai. Et comme toute chose auquel on s'habitue, eh bien, finalement, on l'entend plus tellement. C'est comme plein de choses. Et donc ça, c'est assez intéressant. On était prudente, on était craintive, et on s'aperçoit qu'on dit écrivaine, ça ne change absolument rien. Le plafond ne s'écroule pas sur nos têtes, et on n'est pas. La raison qui faisait et qui fait encore d'ailleurs que beaucoup de femmes ne veulent pas dire écrivaine et continuent à dire écrivain, c'est qu'elles ont l'impression que féminisant le nom de profession, en l'occurrence, elles retournent dans le particulier, alors que le mot général, universel, c'est écrivain. Je crois d'ailleurs que c'est le point de vue de Mona Ouzouf. Et il faut appartenir à l'universel et ne pas se cantonner dans le particulier. Ne pas risquer l'essentialisme, le particularisme, le communautarisme et tous ces horribles ismes pour être dans l'universel qui, malheureusement, pour nous, jusqu'à la fin des temps, serait masculin. Mais ça, c'est pas sûr du tout. Ou peut-être qu'on peut espérer une société plus souple, plus plastique, plus intéressante, où cette fameuse phrase dont parlait Virginia Woolf, plus souple et qui correspond à ma façon, en l'occurrence, de réfléchir, de penser, d'observer, de regarder, sera reconnue et aussi valable que n'importe quelle autre.
Alors, une autre avancée depuis 2002, Geneviève Brisac, et nous allons en parler puisque vous y avez consacré de nouvelles pages dans votre livre « Sisyphe est une femme », ex la marche du cavalier, c'est le fait qu'Alice Munro a reçu le prix Nobel. Alléluia.
I wanted to be a writer since I was around 11 years old. I think that's when it really settled in and it sort of never went away. I think maybe I was successful in doing this because I didn't have any other talents. I'm not really an intellectual. I was an okay housewife, but I wasn't that great. There was never anything else that I was really drawn to doing. So nothing interfered in the way life interferes for so many people. It always does seem like magic to me.
C'est à l'âge de 11 ans que j'ai commencé à avoir envie d'écrire. C'est vraiment à ce moment-là que le désir d'écrire s'est installé. Et si j'ai réussi, c'est parce que je n'ai pas vraiment d'autres talents. Je ne suis pas une intellectuelle, pas une grande femme d'intérieur. Je me débrouille, mais sans plus. Et comme rien d'autre ne m'a vraiment attirée, l'écriture s'est imposée. Rien ne s'est vraiment mis en travers de mon chemin, comme ça peut arriver dans la vie de beaucoup de gens. L'écriture reste une magie pour moi.
Geneviève Brisac, on entend tout de suite dans les mots de cette grande écrivaine nobelisée en 2013 une immense modestie. C'est un auteur incroyable que tout le monde devrait lire, bien sûr, parce que ça apporte un plaisir, un bonheur, en même temps qu'une souffrance, parce qu'elle décrit des vies qui sont souvent terribles. Mais elle a cet humour, cette distance, le fait que, bah oui, elle écrit, parce qu'au fond, comme, elle, comme disait Beckett, hein, elle est bonne qu'à ça, elle n'a pas vu autre chose qui aurait pu lui convenir mieux, et c'est tout. Et elle raconte des petites histoires, et en plus, elle ne supporte pas les journalistes, et elle écrit, elle dit, on n'a qu'à lire, et puis voilà, pas en faire un drame. Donc, il était normal qu'Alice Munro soit dans Sisyphe est une femme.
Alors, moi, j'ai aussi, comme vous, Kathleen Evin, j'adore Alice Munro, je la vénère, je pense que c'est une écrivaine extraordinaire, d'une profondeur métaphysique absolument inouïe, qui a travaillé dans le, en approfondissant son art, en approfondissant, en affinant sa phrase, ses descriptions, ses personnages, les relations entre les hommes et les femmes et les enfants, d'une manière absolument inouïe. Elle est très ironique quand elle dit qu'elle n'était pas une intellectuelle. Il suffit de la lire, de lire trois nouvelles, en particulier celle de Fugitive, où toutes ses héroïnes sont plus ou moins professeurs d'université, lisent le grec dans le texte. Bon, pas une intellectuelle, enfin une intellectuelle quand même. Un peu comme Virginia Woolf, pas une... Mais il faut certainement en rabattre pour être acceptée. Il faut cette modestie, il faut cette discrétion, mais le sourire malicieux d'Alice Munro ne trompe pas du tout.
Elle décrit la vie, notamment les rapports mère-fille, les rapports femme-homme. Et beaucoup de ces héroïnes sont des fugitives, justement.
Absolument.
Elles s'en vont.
Elles prennent le train.
Elles prennent le train, beaucoup. Oui.
Elles prennent le train, comme dans ce dernier recueil que
un
j'adore.
Un peu, beaucoup, passionnément, qui vient de paraître dans une nouvelle traduction d'Agnès de Sarthe aux éditions de l'Olivier. Il faut le lire, la nouvelle traduction. C'est incroyable, hein, les anciennes traductions, les nouvelles traductions, à quel point ça illumine un texte.
C'est fou, hein, ouais. C'est vrai. C'est, du coup, le livre est palpite de vie. Et la première histoire, donc, de cette femme qui va prendre un train pour aller se marier et qui essaye un tailleur parce qu'il lui faut bien une tenue. Et la vendeuse lui dit, ah oui, vous voulez ce tailleur, madame, mais vous savez, en vitrine, puisque vous avez flashé pour ce tailleur, c'est un 36, dit la vendeuse en ricanant comme ça, faire les vendeuses. Pour vous, il faudrait plutôt un 42-44. Et elle accepte le Orion, enfin l'humiliation. Elle essaye le tailleur qui lui va vraiment très mal. Un petit peu comme dans une nouvelle de Flannery O'Connor aussi, où il y a des tailleurs verts comme ça qui se baladent. Et la vendeuse lui dit, en revanche, bon, vous êtes d'accord, ça ne va pas du tout. En revanche, nous avons une robe marron, beaucoup plus chère, qui vous irait bien, je crois. Et elle va se retrouver avec la robe marron pliée dans un savant paquet cadeau pour aller se marier. Et c'est absolument... formidable, chaque détail. Ce qui est très beau, c'est que n'importe quelle lectrice, et éventuellement des lecteurs qui s'achètent aussi des vêtements parfois, et subissent certainement des humiliations aussi, reconnaît ces échanges un peu sous forme de tropisme, la Nathalie Sarraud, ces petites piques, et puis ce désir de ce vêtement qui va vous changer, mais en fait, non. Et elle
c'est
fait
apparemment
ça
trivial,
très,
et
très
ça
bien.
Dit tout des relations entre les gens. Tout bêtement.
Exactement.
Et Jonathan Franzen, à l'inverse de Nabokov, ne s'y est pas trompé, lui qui militait depuis des années pour qu'on lise Alice Munro, grand écrivain. Donc elle est dans votre livre, Geneviève Brisac, et en fait on se rend compte à quel point les univers de ces femmes qui écrivent se recoupent souvent sur des choses comme ça qui n'apparaissent que très rarement dans les livres des hommes. Vous dites la matière même de la vie, les enfants, les deuils et les souvenirs d'enfance de celle qui écrit.
Oui, c'est vrai. C'est vrai. Là, je m'étais rendu compte, je m'étais fait à moi-même l'observation que vous vous êtes faite à vous-même, Kathleen Evin, que toutes ces femmes, en l'occurrence Grace Paley, Alice Munro, Janet Winterson ou Marguerite Duras ou Viviane Gornick, parlent toutes de leurs souvenirs d'enfance, ou Christiane Rochefort, leurs souvenirs d'enfance de petites filles intelligentes qui ont envie de parler et qu'on n'écoute pas. Et quand elles parlent, ce qu'elles disent déplaît. Il y a une anecdote que j'adore, qui est une anecdote de Nathalie Sarraud, où elle raconte qu'elle s'est mise à penser à un moment donné terriblement fort, qu'il fallait absolument qu'elle s'en ouvre à sa mère. Et donc elle lui dit, « Maman, il faut que je te dise quelque chose. En fait, je trouve que tu es beaucoup moins belle que ma poupée. » Et donc elle espère que sa mère va lui dire, « Oui, en effet, je peux pas disputer, ta poupée est magnifique. » Sa mère le prend très très mal. Elle lui dit, « Comment aucune petite fille au monde n'a jamais dit une chose aussi méchante à sa mère. C'est révoltant, tu dois trouver que je suis la plus belle personne du monde. » Et alors, comme elle a l'esprit critique, la petite Nathalie, qui n'est pas encore sa route, elle dit « Mais enfin, maman, tu vois bien que tu as des petits yeux, et ma poupée a des immenses yeux bleus. Et tu as tes deux parties du visage qui sont très asymétriques. » Elle a déjà commencé vraiment à observer. « Ma poupée a les deux côtés de son visage qui sont exactement pareils. » Donc, sa mère la punit et l'envoie se coucher. Et puis, quelques temps plus tard, elle a de nouveau des voix dans sa tête qui... Il faut absolument qu'elle parle à sa mère parce qu'elle se sent très coupable de penser des choses aussi horribles. Donc, elle va voir sa mère et elle lui dit « Maman, j'ai l'impression, je trouve que tu as la peau aussi douce que celle d'un singe. » Et là, sa mère est absolument révoltée et lui dit « Mais comment tu peux dire des choses aussi horribles? Tu es vraiment une fille dénaturée. » Alors qu'elle, elle espérait que sa mère allait lui dire quelque chose comme « Mais tu as raison, ma chérie, Natacha, les singes ont une peau tellement douce, surtout avec cette petite fourrure qu'ils ont. »
Eh oui, ainsi vont les mères et les filles. Mais ces souvenirs d'enfance, par exemple, ils sont très très présents dans deux écrivaines italiennes qui sont présentes dans votre livre, Geneviève Brisac. Deux écrivaines magnifiques, Natalia Ginzburg et Rosetta Loy, qui toutes les deux écrivent du point de vue de l'enfant qu'elles ont été pendant la guerre.
La petite fille.
Sous le fascisme.
Exactement. Alors, la plus ancienne, donc, c'est Natalia Ginzburg, qu'on connaît incroyablement mal en France et dont j'espère que les efforts de certaines maisons d'édition...
Liana Levy, voilà, qui publie notamment Les Voix du Soir.
Qui est un livre magnifique. Et il y a un autre livre aussi qui a été republié, qui en anglais s'appelle The Dry Heart, le cœur sec, et en français s'appelle C'est ainsi que cela s'est passé. Souvent des histoires de cœur, donc chez Natalia Ginzburg. Et elle raconte l'histoire d'une femme qui met une balle dans la tête de son mari entre les deux yeux. Et franchement, ça fait longtemps qu'elle y pense, et elle a des raisons de le faire. Mais c'est dit avec ce cœur sec, cette douceur, ce calme, cette tranquillité des meilleurs romans policiers. Et dans le monologue intérieur, et on comprend comment elle a été traitée et pourquoi cet homme l'a finalement désespérée et qu'elle en attendait tellement. C'est encore des histoires d'amour et puis des histoires d'enfants, comme vous dites. On revient toujours sur ce qu'a été l'enfance parce que la petite Natalia Levy, qui n'était pas encore Natalia Ginzburg, a grandi dans une famille extraordinaire dont elle dit... J'aurais voulu tous les mettre dans un livre avec leur voix. Et c'est exactement ce qu'elle a fait avec ce livre qui s'appelle « Les mots de la tribu ». Et une fois qu'elle a commencé, elle explique qu'elle a écrit en 3 mois, parce que tout revenait, les histoires, le son, surtout les sons.
Et les odeurs.
Et c'est vrai qu'un grand écrivain, c'est quelqu'un qui sait rendre vivant, éterniser en fait, les sons et les odeurs. Et elle le fait, mais incroyablement.
J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent et sans se dénoncer. J'aime les gens qui tremblent, que parfois ils nous semblent capables de juger. J'aime les gens qui passent moitié dans leur godasse et moitié à côté.
J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons.
J'aime les gens qui n'osent s'approprier les choses, encore moins les gens. Ceux qui veulent bien être qu'une simple fenêtre pour les yeux des enfants. Ceux qui sans oriflamme, les daltoniens de l'âme, ignorent les couleurs. Ceux qui sont assez poires pour que jamais l'histoire leur rende les honneurs. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui doutent, mais voudraient qu'on leur foute la paix de temps en temps. Et qu'on ne les malmène jamais quand ils promènent leurs automnes au printemps. Qu'on leur dise que l'âme fait de plus belles flammes que tous ces tristes culs. Et qu'on les remercie, qu'on leur dise, on leur crie merci d'avoir vécu.
merci pour la tendresse, et tant pis pour vos fesses qui ont fait ce qu'elles ont pu.
L'humeur vagabonde sur France Inter.
Je me méfie de ceux qui prétendent définir ce qu'est ou n'est pas un roman. Je crains qu'à partir de ces formules, quelqu'un ne me définisse un jour. Moins on a conscience de ce que l'on fait, mieux on l'accomplit. Techniquement, du moins. Il faut que tout passe par le sang, pas par la tête. Plus je rencontre d'étudiants, plus mes réponses sont vagues. L'un d'eux au Texas m'a demandé en me toisant d'un œil inquiet « Miss O'Connor, quand vous écrivez, à quelle motivation obéissez-vous ?»« Je ne suis bonne qu'à ça, » ai-je répondu. J'ai compris à son expression qu'il pensait que sa question dépassait de loin mes facultés intellectuelles.
Tout l'humour de Flannery et O'Connor que vous relevez dans votre livre Geneviève Brisac, et toutes, alors absolument toutes les femmes qui ont écrit depuis la nuit des temps, se sont toutes trouvées confrontées à cette condescendance masculine, c'est-à-dire... Elle traite de sujets pas nobles. Marguerite Duras, qui a écrit La vie matérielle, c'est de quoi elle-même, même avec sa grande notoriété, sa célébrité sur la planète, a toujours été considérée comme une femme un peu ridicule qui écrivait sur des sujets vraiment pas dignes des lecteurs masculins.
Un peu ridicule, mais vous êtes très en dessous de la vérité, Kathleen Evin. Marguerite Duras, quand moi j'ai commencé à m'intéresser à tout ça, était absolument méprisée, honnie, moquée, alors même qu'elle avait été encensée et portée au nu dans une première étape. Elle était très jolie, Queneau l'adorait, elle était communiste, elle avait connu la guerre, la résistance, etc., etc. Et donc, et puis elle est tombée dans un trou, un abîme, et je me souviens en particulier au monde des livres, à l'époque où je collaborais, j'écrivais des piges, et tout le monde se tapait sur les cuisses quand on citait le nom de Marguerite Duras. Je me souviens même d'un monsieur qui avait écrit un pamphlet, il y en a même eu plusieurs, où il se moquait de, il y en a eu plusieurs, hein, de Marguerite Duras et de son alcoolisme et de ses manières, de même qu'on s'est moqué de sa vie privée, de même qu'on s'est moqué de Yann Andrea, de celle qu'on s'est moqué de son... On s'est moqué de tout. On disait qu'elle était ceci, qu'elle était cela, et l'argent. Pourquoi elle ? Des écrivains près de leur sou, j'en connais, je ne les dénoncerai pas à cette antenne, mais j'en connais des tas.
C'est on n'aurait pas, une... pas le temps.
On n'aurait pas le temps,
non, c'est
pas
le temps. Mais en revanche...
Et je voulais quand même parler de l'âge.
Oui.
Doris Lessing, Marguerite Duras, il faut attendre d'avoir passé 80 ans pour espérer quoi que ce soit pour une écrivaine. Et je le dis, je le répète à mes camarades écrivaines, prenez soin de vous, mangez des vitamines, écrivez tranquillement comme Alice Munro, promenez-vous dans la campagne, écrivez ce qui vous fait plaisir et attendez.
Et ne vous laissez pas démonter par les premiers avis donnés à vos premiers écrits.
Il y a une chose qui m'est arrivée par exemple, j'ai écrit un premier roman il y a longtemps et puis je l'ai montré à l'homme que j'aimais à l'époque. Je l'ai montré, fait lire, ça, j'ai donné. Puis il me l'a rendu, disant, ma pauvre fille, tu ferais mieux de raccommoder des chaussettes. Bon, ça fait partie du type d'obstacle hein, que nous rencontrons, c'est très spécifique aux femmes, ça.
On vous l'a dit aussi brutalement.
Ah, comme ça, c'est la phrase typique, je l'ai bien imprimée dans ma tête. Alors, premièrement, on a pu me dire une chose comme ça, avec une référence aux chaussettes. Avec ma pauvre fille... Bien, ce gars-là, il n'aurait pas dit ça à un copain, même s'il lui avait donné un roman mauvais. Il aurait dit, tu sais, j'ai lu ton truc. Moi, je trouve qu'il y a des trucs qui sont pas au point là-dedans. Alors, est-ce que je peux t'en parler? Ou bien il aurait dit, c'est bien, mon vieux, continue. Mais il n'aurait pas parlé de, sinon chaussettes, du moins réparer les voitures. Hein? Deuxièmement, quand il m'a dit ça, je n'ai pas envoyé le bouquin à travers la figure ni ma chaussure, mais je me suis dit, ah là là, j'ai pas de talent. J'ai arrêté d'écrire. Et pendant pas mal de temps. Hein? Bon.
Là, vous étiez opprimé.
Eh bien oui, comment peut-on appeler ça? C'est vraiment là une oppression spécifique, effectivement, que j'ai attrapée parce que j'étais une fille et dont j'ai su par la suite que le gars, simplement, ce qu'il voulait, c'était que je sois sa femme, la personne qui l'aide lui, qui lui donne mon énergie à lui, au lieu de l'utiliser pour moi-même. C'était un vampire.
Geneviève Brisac, dans Sisyphe est une femme, vous entreprenez de réhabiliter complètement Christiane Rochefort, que l'on entendait là, et vous la réhabilitez alors que c'est vrai qu'on ne la lit plus du tout.
Plus du tout. C'est vrai que Christiane Rochefort a été adulée, a eu beaucoup de succès, elle est tombée dans l'oubli avec toujours des calomnies du même ordre, c'est-à-dire ah oui, Christiane Rochefort a été complètement tapée, non, elle a été frappée, elle était folle, oui bon, elle nous 68 tard effrénée, et puis c'est très vieillot, non, ça a pas très mal vieilli. Moi j'ai entendu ça dès que j'ai dit je vais écrire quelque chose autour de Christiane Rochefort que j'aimais tant, on m'a dit non mais tu pourras pas, c'est ça a vieilli, ah, ça a vieilli comme une femme, mal vieilli quoi, alors que bon, or Christiane Rochefort et de son temps, c'est vrai, elle est extrêmement libertaire, elle est extrêmement joyeuse, elle est extrêmement 68-tarde, elle est extrêmement mordante, ironique, elle ne mâche pas ses mots comme on l'a vu, elle a peur de rien. En ça, c'est peut-être dépassé ou pas. Peut-être que c'est pas du tout dépassé, peut-être qu'au contraire, c'est tout à fait l'air du temps. Alors, il est arrivé quand même quelque chose de particulier à Christiane Rochefort, sur quoi je reviens beaucoup. C'est que elle a son premier livre qui a eu tellement de succès.
Le repos du guerrier.
C'était le repos du guerrier.
Adapté au cinéma par Vadim.
Exactement, et Brigitte Bardot, donc.
Mais oui, donc scandale absolu.
Scandale. Et elle-même, quand elle revient là-dessus dans son autobiographie, qu'elle a écrite assez tardivement, elle dit je regrette d'avoir écrit ce repos du guerrier de cette manière. Je l'ai fait innocemment. J'ai parlé de sexe avec naturel et vérité et complètement, il y a et une scène d'amour et de cunnilingus tout à fait réaliste, et elle explique aussi comment une femme peut devenir dépendante d'un homme qui lui a fait découvrir le plaisir. Elle, et du coup évidemment ça a beaucoup intéressé énormément de monde, ça va de soi, mais elle était extrêmement offensée du fait que c'était pas la littérature qui était comment dire à l'honneur. C'était la pornographie. Enfin, la pornographie, c'est-à-dire un mot cruel qu'elle emploie elle et que je n'emploierai pas nécessairement. Mais en tout cas, c'était le fait de parler de sexe pour une femme. Si une femme parle de sexe, alors ça intéresse tout le monde. Si elle parle d'enfants, de maison, de cuisine, faut pas exagérer, ça intéresse
personne.
Et puis,
on peut dire aussi que ça a été pratique de mettre Christiane Rochefort de côté, parce que, au fond, elle était aussi très politique. Ça a été une des fondatrices du MLF.
Oui.
Et ça rapproche d'une autre écrivaine, donc, que les auditeurs de l'Humeur Vagabonde ont entendu l'année dernière à ce micro, parce que ces deux livres ont été traduits pour la première fois en français aux éditions Rivage. On en parlait hier. Une seconde, on va en parler à nouveau, c'est Viviane Gornick.
It's two steps forward, one step back.
C'est deux pas en avant, un pas en arrière.
It's the longest revolution on record.
C'est la plus longue révolution dont on puisse se souvenir.
Is stronger than
la peur de l'égalité entre les hommes et les femmes est plus puissante que tout autre mot sociaux, à part peut-être la question raciste, la question des rapports entre noir et blanc. Cela crée de la peur, cela crée de l'angoisse, cette égalité. Quand nous avons commencé dans les années 70-80, nous avons aussi pensé vivre une époque révolutionnaire et que tous les combats seraient gagnés en 10 ans peut-être.
J'ai été élevée
à gauche. Cette mère que nous citons était aussi communiste. Donc j'ai appris à voir les choses sur le long terme. Dès mon plus jeune âge, sur un plan politique. Moi aussi, je pensais que cette révolution allait être faite très rapidement. Comment quiconque pouvait-il ne pas voir l'injustice dont nous parlions?
That it was going to be forever.
Et puis j'ai compris que ça allait durer éternellement et que ce n'était pas un combat qui s'étendait sur la durée de ma vie, mais peut-être sur un siècle ou plusieurs.
I really do believe it's two steps forward and one step back.
Je crois vraiment que c'est toujours deux pas en avant, un pas en arrière.
Viviane Gornick, donc Attachement féroce, le livre qu'elle a consacré à sa mère, sacrée personnalité, et Une femme à part, sur les voix, on en revient aux voix, comme avec Natalia Ginzburg, sur les voix qu'elle entend dans la rue, les scènes de la vie quotidienne. Elle a de l'humour, elle est politique, elle parle des choses qui se passent dans la vie de tout le monde.
Elle parle des bus. Elle parle effectivement des promenades dans New York qu'elle fait avec son copain Léonard. Et elle mélange, c'est une chose que j'aime énormément chez elle, d'ailleurs qui rejoint beaucoup de celles dont on a parlé là. Elle mélange ce qu'elle pense, comme Alice Munro, des femmes qui pensent, ce qu'elle observe, ce qu'elle voit, ce qui la fait rire, ce qui la met en colère, le racisme, les injustices, la misère, la pauvreté, les SDF, le froid, etc. Et puis la suffisance masculine dont on n'a pas assez parlé, et tout ça au nom de l'amour, enfin au nom de l'amour. Je m'entends, c'est-à-dire que je voudrais pas qu'on pense dans cette émission que ces femmes dont que nous évoquons ne parlent pas d'amour. Évidemment qu'elles parlent beaucoup d'amour, mais elles en parlent avec liberté, elles en parlent avec lucidité, et elles en parlent avec drôlerie. Donc là, dans ce livre, la narratrice se promène avec son pote, hein, son copain, qui s'appelle Léonard, qui est gay, et à un moment donné, elle note la chose suivante sur les relations entre les hommes et les femmes. Donc je vais vous lire la phrase que j'adore. C'est à lui, donc ce Léonard, que la lectrice doit cette intéressante réflexion. Je n'aime pas l'énergie masculine, elle est trop directe, trop brutale. Ce n'est pas tellement intéressant. La gestuelle, les mouvements, le répertoire sont très limités, sans nuance, sans modulation. Ce n'est pas du tout attirant, et parfois c'est même suffocant. Viviane sourit, et nous aussi. J'ai l'habitude d'avoir ce genre de conversation avec mes amis, dit-elle, avec les doutes d'usage, les doutes dont on parlait. Mais si Léonard le dit... Elle est très dure avec les comportements masculins, en particulier avec l'égoïsme masculin. Et ça ne fait pas de mal de porter un jugement sévère sur Henry James, qui était invité par une de ses amies à Venise pendant l'hiver. Elle lui dit, s'il vous plaît, Henry, j'espère que vous allez venir. Et il dit, oui, bien sûr, je vais venir.
Elle est très déprimée, il faut
dire. Elle est affreusement déprimée. Et donc elle lui écrit, quand est-ce que vous venez? Je suis très déprimée. Alors là, l'idée qu'elle est déprimée, ça le refroidit énormément et il ne vient pas.
Et elle se suicide.
Et elle se jette par la fenêtre. Et il dit, je sais plus ce qu'il dit d'ailleurs.
Oui, quelle faute de goût.
Quelle faute de goût, il est dérangé par ce suicide. Et on se dit quel mauvais ami c'était. Et elle parle beaucoup d'amitié, toutes ces femmes aussi.
Alors, puisque nous avons parlé beaucoup de toutes ces femmes écrivains qui sont débordantes de talent, de drôlerie, d'ironie et de tendresse. Il faut quand même dire qu'il y a un homme écrivain, qui n'est pas dans votre livre, mais qui, moi, me semble très très proche de cette écriture, de l'écriture de Grace Paley, par exemple, ou de l'écriture même de Viviane Gornick, c'est Raymond Carver, qui lui aussi écrivait des nouvelles où il parlait d'histoires d'aspirateurs ou d'être dérangé pendant qu'on fait la vaisselle ou d'arriver un soir et de trouver sa maison vide.
Abandonnée.
Voilà.
C'est vrai aussi que quand Raymond Carver écrit, qu'il explique qu'il écrit des nouvelles parce que ça prend le temps d'une séance ou de la vomatique, ensuite il faut aller chercher les enfants et qu'il écrit dans sa voiture parce qu'il n'a pas beaucoup d'argent en plus. C'est totalement bouleversant. J'ai tendance à penser que l'injustice vient du fait que si c'était une femme qui disait qu'elle écrit une nouvelle pendant le temps du lavomatique, c'est tout de suite moins gratifiant. On se souviendra moins. Je me souviens d'un livre d'un homme que j'admire énormément, l'écrivain Christian Auster, par exemple. Il avait écrit un livre qui s'appelait, je crois, Ma femme de ménage. C'est parce qu'il était un écrivain qui pouvait le faire. Je défie n'importe quelle femme d'écrire un livre qui s'appellera Ma femme de ménage. Et ça ne sera pas sa fête.
Oui, sûrement. Mais bon, lisons Raymond Carver. Mais lisons surtout toutes ces femmes dont vous nous parlez dans Sisyphe est une femme, Geneviève Brisac. C'est un livre qui est paru aux éditions de l'Olivier. Lisez aussi Natalia Ginzburg. C'est publié aux éditions Liana Levy. Viviane Gornick, c'est aux éditions Rivage. Merci infiniment. Et de toute façon, lisez.
Voilà.
Merci Geneviève.
Merci Kathleen.
Nous nous retrouverons la semaine prochaine aux environs de 19h20. Et bien sûr, après les informations de 20h, vous avez rendez-vous avec Xavier Leherpeur pour une heure en série. Très bonne soirée à l'écoute de France Inter.